Bon, peut-être qu'on peut ouvrir le débat à la salle, si vous êtes d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole?
Alors, j'étais particulièrement intéressée par deux choses. Donc, c'est plutôt des questions d'éclaircissement, des questions de logique, comment faire avancer. Sur cette question du pouvoir discrétionnaire des petits agents de l'État, tu es vite passé là-dessus, me semble-t-il, en disant que finalement, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais finalement, quand même, il y en a une. Au sujet des 100 000 euros. Donc, peut-être revenir là-dessus. Bon, regarde ce que tu avais pu faire avant, hein, peut-être qu'on va faire là-dessus. Et puis moi, j'étais particulièrement intéressée, alors non pas dans ce qui ressort, hein, il y a l'école blanche, finalement, il n'y a pas les plus précaires, hein, de ce que je comprends, hein, de ce que j'entends, hein, parce que j'ai vu, mais finalement, ce monde des petits patrons, et je pensais, en t'écoutant à cette littérature, par ailleurs, qui existe en sociologie, sur l'évasion du monde ouvrier vers le monde de la petite entreprise, du petit commerce. Et en réfléchissant à ça, je me demandais si tu avais fait des suivis de dossiers, parce que j'imaginais les répercussions en termes de mobilité sociale que ça produit, la répression fiscale comme ça qui tombe sur un individu, petit patron, gérant. Il y avait des rêves de mobilité sociale, de mobilité par le haut, de devenant petit patron, et qui se... Voilà. Alors, je voulais savoir si dans tes travaux, est-ce qu'il y avait ce suivi de dossier, et si cette question des trajectoires sociales, tu l'avais abordée d'une manière ou d'une autre, tu l'avais en fait cette littérature par le haut.
Ok, merci. Alors la question du pouvoir discrétionnaire, c'est vrai que je suis passé vite parce que c'était ce qui m'a amené presque sur le terrain des impôts et que je l'ai un peu laissé de côté, c'est vrai, mais je peux toujours y revenir. Ce qui est frappant, évidemment, c'est de comparer avec l'administration préfectorale, l'administration de l'immigration, et de ce point de vue-là, il y a toujours un pouvoir discrétionnaire, mais c'est de voir à quel point il est beaucoup plus contrôlé dans l'administration fiscale qu'il ne l'est dans l'administration préfectorale. C'est-à-dire que le pouvoir discrétionnaire, pour le dire vite, voilà comment ça s'organise, le pouvoir discrétionnaire chez les préfectures, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu, s'il fallait chiffrer, on va dire, à 20% l'agent de guichet, qui a le pouvoir de faire des refus guichet, qui a le pouvoir de noter certaines choses ou de prendre certains documents et pas d'autres, qui a le pouvoir de mettre des appréciations éventuellement sur le dossier. Et puis, on va dire à 40% l'agent du back-office qui instruit le dossier, qui lui a le pouvoir concret de dire oui ou non, est-ce qu'on l'éloigne ou pas, est-ce qu'on lui donne une carte de séjour ou pas, est-ce que, etc. Et puis quand même à, ouais, je ne sais plus à combien je suis là, mais 40%, enfin, un peu plus de 40% aussi, surtout le chef de salle en fait, le chef de service qui donne les instructions et qui dit sur tel type de dossier, quand c'est... quelqu'un qui est en contrat de 6 mois et qui a une carte temporaire et qui veut changer de statut, c'est non. Et donc, ou c'est oui, ou avec telle caractéristique, cette espèce de jurisprudence bureaucratique qui est faite à l'intérieur du bureau. Voilà, c'est le pouvoir discrétionnaire, il est réparti comme ça, en très très gros, où il y a les préfectures. Dans l'administration fiscale, c'est pas du tout ça. D'abord, la formation des agents est beaucoup plus élevée. Puisque là, je parle d'agents de catégorie C, hein, au guichet des préfectures. Là, c'est tout de suite en matière de contrôle fiscal, c'est d'abord contrôleur. Au plus bas, pour avoir un pouvoir discrétionnaire, c'est contrôleur, donc c'est agent de catégorie B, qui doit en général en référer un inspecteur, donc catégorie A. Et même dans les brigades, alors pour parler contrôle fiscal, hein, dans les brigades de vérification, l'inspecteur de brigade, qui est catégorie A déjà, il a un tout petit pouvoir discrétionnaire, c'est celui, évidemment, quand il fait son contrôle, quand il va dans l'entreprise, voilà, mais l'essentiel des décisions, il doit rapporter à son chef de brigade, et donc, en fait, il est très contrôlé par son chef de brigade, qui est déjà... Et la marge de manœuvre, alors, du point de vue général même de l'administration, elle est beaucoup plus étroite, parce que le risque de recours, il est beaucoup plus élevé, en fait, hein. Derrière, il y a des comptables, il y a des avocats, il faut border la procédure de bout en bout, et il y a vraiment, voilà, et c'est donc de ce point de vue-là, en fait, je pense que En tout cas, quand tu discutes avec un inspecteur des impôts, le pouvoir discrétionnaire, il n'a pas du tout, il a l'impression d'en avoir aucun, et c'est pas loin d'être vrai, en fait. Voilà, en matière d'administration de l'immigration, il y en a beaucoup plus, et à des échelons bien moindres. Donc voilà, et puis ça se sent aussi en matière de, pour reboucler sur la justice administrative, c'est-à-dire que un des objectifs de l'administration fiscale, c'est de ne pas avoir de recours, en fait, de ne pas avoir de recours administratif. Donc arriver à faire des choses dans les clous, du point de vue légal, etc., et aussi avoir une entente avec la personne, à s'entendre avec la personne pour être sûr d'avoir un contrôle qui soit recouvré, etc., comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et il y a des chiffres, et il y a une politique du chiffre qui consiste, qui consiste à avoir le moindre recours possible, le plus de recouvrement, etc., etc. En matière de l'administration préfectorale, on s'en fiche complètement des recours administratifs. C'est la dernière roue du carrosse. C'est pas du tout un enjeu d'éviter le recours administratif. Il y a l'idée que de toute façon, ils sont accompagnés par des associations. Donc de toute façon, quelle que soit la décision, ils vont le faire, le recours, quel que soit ce qu'on dise, quel que soit ce qu'on prend, ils vont faire le recours. Donc quel que soit ce que dit le juge, d'ailleurs, de toute façon, nous, on continue à faire comme on fait. Enfin, voilà, il y a aussi... Il y a un rapport au droit qui est très, très différent, mais qui est lié aussi, alors, à la fois à la qualification des agents, mais et qui est lié au fonctionnement des institutions, en fait. Et voilà, donc, ça influe, effectivement, sur le pouvoir discrétionnaire. Sur la deuxième question, sur les trajectoires sociales, alors, sur les dossiers fiscaux, pas du tout. On ne peut pas le faire parce que, tout à l'heure, j'ai parlé du secret fiscal, quand même, hein, c'est quelque chose de très lourd, il y a une convention, ça s'engage sur le secret fiscal, donc c'est un peu compliqué après, une fois qu'on a signé tout ça, de prendre les noms des personnes et puis d'aller les contacter pour leur dire bonjour, c'est pour une enquête. On s'est engagé à tout anonymiser et tout, donc ça je ne l'ai pas fait. En revanche, là ce que je fais beaucoup, c'est je fais des entretiens, donc comme j'ai dit sur la question du consentement à l'impôt, et donc là je fais des entretiens avec des indépendants en fait, au guichet du RSI, le régime social des indépendants. Donc c'est les gens qui viennent contester cette fois-ci c'est pas l'impôt, c'est les cotisations sociales. Et du coup, une fois que je les rencontre au RSI, enfin j'ai fait ça avec des étudiants, ensuite je fais des entretiens approfondis avec eux. Si on veut parler des questions compliquées, il vaut mieux pas avoir le magnéto sur la table, ou en tout cas pas visible. Une fois qu'on a on a pris sur soi cette entorse à la déontologie, on peut avoir des choses assez intéressantes sur l'effet de la fraude, sur le rapport à la fraude en fait, de ces petits commerçants, et sur comment ils la voient. Et ce qui est très frappant, moi, ce que je trouve, hein, c'est qu'on a vraiment, pour le coup, un recul, à mon avis, ou en tout cas, une transformation du rapport à la fraude. C'est qu'il y a de plus en plus de métiers, tous ces petits indépendants, qui n'ont plus accès, et je pense que ça participe, enfin, vraiment, mon interprétation, c'est que ça participe du ras-le-bol fiscal, c'est qu'avant, il y avait une grande marge de manœuvre qui était laissée aux petits indépendants, il y avait beaucoup de liquide qui circulait, il y avait beaucoup de professions de petits indépendants comme ça qui pouvaient ne pas déclarer des choses, et d'une certaine manière, s'arranger un peu avec l'impôt, en fait, hein, s'arranger avec les cotisations, s'arranger avec plein de choses. Et là, aujourd'hui, en fait, ça a beaucoup reculé, l'usage du liquide a beaucoup reculé, c'est une des choses qui est très, enfin une des évolutions frappantes. Et la fraude fiscale, c'est technicisé en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faire de la fraude fiscale, c'est vrai que pour le boulanger, c'est toujours possible. Pour le maraîcher, c'est toujours possible hein, de mettre du liquide à côté. Mais si on met de côté ces professions-là, qui sont quand même très particulières, pour tous les autres indépendants, qui sont sous-traitants, etc., qui travaillent avec des entreprises, il y a des traces, il y a des cartes bleues, il y a des contrats, il y a des devis, et comme il y a une méconnaissance de l'administration, c'est-à-dire que pour pouvoir frauder, il faut savoir ce que c'est et ce que fait l'administration. Et là, il y a une vraie inégalité aussi dans le... ils savent pas trop, en fait. Hein. Donc, dans le doute, ils ne le font pas. Ils aimeraient bien le faire, mais ils ne le font pas. Et il y en a encore qui le font. Hein. Attention, je ne suis pas en train de dire que... Mais du coup, ça s'est technicisé parce que, c'est plus compliqué. Il faut avoir des logiciels de double comptabilité. Il faut avoir des choses un peu plus élaborées. Et donc ça, après, ça joue, effectivement, ça peut jouer dans les trajectoires sociales. Mais ça, c'est... Enfin, je suis en train d'écrire un truc là-dessus parce que je trouve que c'est une vraie transformation dans la...
D'écouter, puis des réponses passives, c'est-à-dire par méconnaissance, parce qu'il y a eu du retard dans les papiers, et on retourne à l'administration fiscale.
Je parle pas de celle-là, parce que l'administration fiscale est comme très conciliante, donc en général, sur ces choses-là, elle est plus conciliante. Là, je parle de choses qui sont
déclarées.
non, et puis ouais, de choses qui sont vraiment avérées comme étant de la fraude. Là, je parle plus des erreurs. Mais en même temps, il y a toujours des, enfin, notamment chez des restaurateurs, j'ai des beaux entretiens des restaurateurs qui expliquent que voilà, que tous les soirs ils font la comptabilité pour les impôts et la comptabilité pour le black, que quand ils vendent leur fonds de commerce, il y a le prix pour les impôts et le prix pour le black, que quand ils sont avec leur fournisseur, il y a le fournisseur pour les impôts, et que donc tout ça est très très organisé. Donc c'est pour ça que je dis que ça, c'est pas que ça n'existe plus, ça existe encore, mais certaines professions.
Merci beaucoup pour toute cette présentation. Ça m'a donné plein d'idées. En gros, je vais en jeter plusieurs et puis tu réagis. Sur la dernière discussion, enfin presque dernière, sur le pouvoir discrétionnaire de l'agent d'État, je pensais à une autre fraude enveloppante que j'ai pu voir sur les délits sur le respect des prescriptions environnementales. Une entreprise qui balance à la rivière plus que ce qu'elle est censée en balancer. Et elle a un corps d'inspection en face qui dit les amis, ça va, on a vu quoi, mais en fait on discute tout le temps sur oui, je sais que tu as vu, mais en fait tu comprends, je ne vais pas y arriver tout de suite, on décale, on joue et on s'ajuste. Est-ce qu'on a de ce point de vue des choses équivalentes dans ton univers? J'aimerais bien mieux comprendre. Après j'avais très loin de cette remarque une petite formule que tu as employée quand tu as dit, bon, dans les résultats, j'aimerais bien pouvoir vous dire qui ils sont, alors, sauf que les professions ne sont pas renseignées, sinon c'est mal, c'est gérant, mais finalement, sauf à coder 50% des jugements comme gérant, je ne peux pas m'en sortir. Et je me dis, mais pourquoi ils ne s'en sortent pas en codant comme gérant? Parce que finalement, bien sûr qu'on aimerait peut-être situer ça par rapport à une nomenclature de PCS, ça aurait un sens, mais ça en a peut-être déjà un de les faire comme gérant. Donc, quelles sont les catégories indigènes de classement des populations? Et derrière gérant, juste c'est pour ça que ça m'a fait utile, mais peut-être qu'il y en a d'autres catégories, donc vous allez voir plus précisément. Il y a, quand tu es gérant, c'est que tu n'es pas détenteur de capital. Tu fais pour d'autres, quoi. Le gérant, il est celui qui va pouvoir se rembuler, se faire taper sur les doigts, et celui qui a le capital, finalement, lui, passe à travers cette affaire-là. Donc je me disais, c'était peut-être pas si embêtant d'avoir des catégorisations auto-descriptives, si c'est des gens qui se cotent comme ça, ou voir les catégories qu'utilisent ces agents, même pour décrire des échelles sociales, et qui ne sont pas les mêmes catégories à nous, les professionnels de du dénombrement des populations, mais qui pourraient être vraiment un. Encore une question. Tu nous as décomposé là, les 50 000 contrôles positifs en successifs tris qui amènent à 16 000 réprimés, à 4 000, etc. Est-ce que tu as fait la même chose sur les volumes d'infractions supposées accrochées à chacune? C'est-à-dire, quand tu as un contrôle positif, il est dit à peu près sur combien porterait cette fraude?
Le redressement moyen, je l'ai. Enfin, je pense qu'on pourrait le savoir, mais je ne l'ai pas en tête. Mais,
c'est-à-dire, est-ce qu'on pourrait voir aussi si ce mécanisme de tri sélectionne vers plus haut ou vers plus bas, ou sûrement qu'il va sélectionner de tout, parce qu'il a dit à la fin, il y a quelques grosses affaires, et est-ce qu'on verrait des taux de sursélection pour certaines épreuves? Je me suis dit que c'était... En plus, il se trouve que ça vient en écho à un séminaire précédent où on a travaillé sur le viol et la reconnaissance comme digne de traitement en justice du viol, qui était exactement ce que tu as raconté là. Donc ça faisait complètement écho. Je me disais, bon, allez, tiens, alors on aurait une information supplémentaire, c'est combien on a détourné à chaque fois, ou on suspecte qu'il y a des détournements, et on pourrait peut-être mesurer ce point. Et puis, voilà, pour finir, c'est une question un peu plus grosse, un peu plus lourde. On peut en discuter tout à l'heure de quand est-ce que tu étais venu la dernière fois. Et en fait, maintenant, je sais. Donc, c'est 2005, c'est bien après la thèse. Et c'était une thèse de socio-histoire. Ouais. Et tu étais, au moment où tu étais en préfecture, en train de faire tes observations, ouais, qui sont publiées dans l'acte, et qu'on t'avait sollicité pour le colloque de 2006. Bon, maintenant, ça se raccroche dans le bon sens sur observer le travail. Donc, tu as fait cette expérience d'une recherche socio-historique poussée, et puis d'après, je veux voir comment ils font mes agents, ouais, et ils ont une pratique différenciée. Et rebelote, tu lui refais la même chose, sauf que tout à l'heure, tu me dis, mais je ne sais pas quel est le sens de cette formule, « Vous inquiétez pas, je ne vais pas faire long avec la socio-histoire. » Donc, est-ce que maintenant, tu fais une socio-histoire autrement, celle que tu avais faite à cette époque-là, et déjà, ça m'intéresserait d'avoir un retour, puisque tu fais la même chose, une marque socio-histoire, et tu vas faire des observations. Donc, est-ce que à 10 ans d'intervalle, il y a la manière de le faire changer? Et puis, alors, pour une suggestion de réflexion, ou une question, peut-être regarder ça, moi, ça m'intéressait beaucoup, cette socio-histoire que tu nous as faite. Mais je voyais des choses du style, bah, quand on recentre vers telle population, ou quand on change de recrutement, qu'on va vers telle autre, c'est pas d'un coup que l'institution devient de bleu jaune, de jaune rose. Donc elle va faire coexister des populations bleues avec des jeunes, des jeunes avec des roses. Et donc, est-ce que là, c'est pas des moments où on pourrait attraper des gens qui n'auraient pas une suite autrement? Parce qu'ils vivent mal de voir une nouvelle génération qui n'est pas comme eux. Qu'est-ce qui fait génération? Et est-ce que ça, c'est des bons interlocuteurs pour avancer dans la compréhension de choses qui sinon ils échappent?
Oui, bien sûr.
Bien, merci. Alors, je pense qu'il y aurait plein de comparaisons à faire, effectivement, sur les délits environnementaux, sur les délits, enfin, en gros, sur les délits d'entreprise, en fait, hein, qu'on connaît si mal en France et qui sont si bien renseignés dans d'autres univers. Je pense en particulier aux États-Unis, parce qu'il y a toute une, c'est quasiment tout un département qui s'occupe de la délinquance d'entreprise. Et que là aussi, évidemment, il y a des questions. Alors, en matière fiscale, la particularité, surtout, c'est la possibilité des voies de recours, en fait. C'est-à-dire que quand on est contrôlé, on n'a pas qu'un seul interlocuteur. En fait. On est contrôlé par un inspecteur de brigade. Ensuite, on peut demander à voir son supérieur hiérarchique, le chef de brigade. Ensuite, une fois que le chef de brigade a validé la vérification, on peut demander l'interlocuteur fiscal départemental, qui est le chef départemental, et à chaque fois, on peut renégocier. Ensuite, on peut demander au conciliateur départemental. Ensuite, on peut éventuellement passer en commission des impôts directs, où donc là, c'est au niveau c'est une commission à parité qui est présidée par un magistrat administratif, et avec d'un côté. Et donc à chaque fois, en fait, on peut négocier, dire que quand même les pénalités sont un peu lourdes, que quand même on nous a repris sur telle et telle chose, mais que telle chose, d'accord, mais telle autre, quand même, c'était un peu exagéré. Et puis ensuite, on peut aller au tribunal administratif. Donc en fait, on a quatre niveaux. Donc oui, ça joue. Le côté on joue, on s'ajuste, mais ça joue multiplié par quatre, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on recommence, en fait.
On ne connaît pas grand-chose sur la situation en France. C'est vrai, mais ce qu'on aime bien dire, faute d'informations complémentaires, mais avec la foule par exemple, c'est que les contrôleurs et les contrôlés sont de la même école, de la même formation, ils partagent un certain nombre d'éléments de lecture commun du monde. Et tu disais tout à l'heure que les gens de l'administration fiscale sont très attentifs à présenter des dossiers bien bordés.
Ouais.
Voilà, comment se fait, est-ce qu'il y a des gens qui sont face à face avec tous les mêmes codes, qui les partagent parfaitement, et c'est un travail fait pour ça, qui ressemblerait du coup à la justice, aux questions, au traitement des régulations environnementales?
Non, non, je pense pas que. Enfin, quand je disais, c'est. Ouais, ils se ressemblent. Enfin, non, ils se ressemblent pas. Il y a quand même. Je sais pas si c'est tellement une question de. C'est tellement une question de ressemblance. Ce qui est sûr, c'est que. Du point de vue de la transmission au pénal, c'est clair que les inspecteurs, il y a aussi cette idée qu'il faut que le dossier soit parfaitement carré et qu'il y ait 100% de chances de condamnation, en fait. Et que du coup, s'il y a la moindre incertitude, s'il y a la moindre petit risque de vice de procédure, etc., on s'en tient aux sanctions administratives et on c'est plus dans ce sens-là, en fait. Mais j'insiste sur ça parce que tous ces échelons-là, c'est autant de filtres internes et aussi de possibilités de négociation qui démultiplient. Alors sur la question des gérants, je suis d'accord, c'est vrai que c'est un résultat, le fait que je dis 50%, c'est un peu moins, hein, c'est 45% des gens qui se déclarent gérants. Mais c'est quand même un peu... Enfin voilà, on ne sait pas très bien, c'est-à-dire que gérant, il y a plein de manières d'être gérant, on peut être gérant de paille, on peut être gérant et... voilà, c'est sûr qu'on... en fait, c'est celui qui fait, enfin c'est celui qui prend la responsabilité de la comptabilité. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est une tautologie. C'est que on poursuit, on détecte un vice dans la comptabilité, donc on poursuit celui qui est en charge de la comptabilité. Donc de ce point de vue-là, enfin on peut le dire, mais en même temps, il y a un côté un peu tautologique et le regret, voilà. Mais c'est lié aussi au fait que l'essentiel des fraudes fiscales qui sont contrôlées, mais ça aussi, ça va contre une prénotion que moi je pouvais avoir, c'est que l'essentiel des fraudes fiscales qui sont contrôlées, sur les 50 000 dont je parle, en fait, il y en a, 95% c'est des entreprises et 5% c'est des particuliers. Donc, dans les vérifications, c'est 4 000 en fait, hein, le nombre de particuliers qui font l'objet d'une vérification approfondie par an, et 50 000 des entreprises. Donc en gros, ça fait 54 000, 4 000 particuliers, 50 000 entreprises. Et ces entreprises, bah en fait, là aussi, la difficulté, c'est que la responsabilité, elle est diluée, en fait, dans le sens où c'est très peu. C'est aussi pour ça qu'on a très souvent le gérant. Et donc, du coup, c'est très difficile de qualifier sociologiquement une entreprise, enfin, je veux dire, ou un gérant, ou. Et c'est là où on est gêné, on est beaucoup plus à l'aise pour le faire sur des particuliers. Mais les particuliers sont très peu nombreux. Alors, sur les montants, j'ai pas en tête les montants, donc je vais pas les donner parce que je vais dire des bêtises, mais je pourrais dire deux choses. D'abord, c'est compliqué les montants parce que tous les ans, ça vous aura pas échappé, en tout cas je le dis parce que la question n'a pas été posée, donc je la pose et j'y réponds. Tous les ans, les montants en matière de contrôle fiscal augmentent, en matière de redressement. Il y a un côté de l'administration fiscale qui a tout le temps besoin d'être la première élève de la classe, tout le temps, et donc de montrer qu'elle progresse, qu'elle a des objectifs chiffrés, qu'elle remplit, etc., etc. Le problème, c'est que c'est des montants notifiés et que ce n'est pas forcément les montants recouvrés. Et que notamment sur les... Donc notifiés, c'est ceux où on dit, ben voilà, vous devez... Et recouvrer, c'est l'argent qui rentre effectivement dans les caisses de l'État. Après un contrôle fiscal un peu lourd, souvent... Voilà, l'entreprise, elle peut disparaître, elle est en liquidation, c'est de l'argent enfin, qui ne rentre absolument pas. Donc on peut notifier très lourd, donc il faut quand même se méfier sur cette question des montants. C'est très, très frappant aussi, justement, au tribunal, où on a des gérants de paille d'entreprises qui se sont évaporées, où on a le gérant de paille en face de nous, mais on ne sait pas, le donneur d'ordre, celui qui avait l'entreprise, il a disparu dans la nature, sans laisser d'adresse, etc., etc. Donc en fait, voilà, cette question des montants, elle est très pratique pour l'affichage des résultats. Il faudrait se méfier aussi, enfin voilà, surtout si j'ai dit en matière de TVA, on arrive très vite à des montants colossaux en fait. Parce que 20%, ça va en matière de facturation dans le bâtiment, ça peut aller très vite. Voilà, qu'on fait les montants sur la taxe carbone, en fait. Hein, là aussi, il faudrait prendre la moyenne et la médiane. Hein, parce que si on prend la moyenne, on peut avoir la taxe carbone, c'est des centaines de millions d'euros évaporés, en fait. Hein. Alors, mais on a, voilà, et on a personne en face, en fait. Donc il faudrait être... vigilant sur la moyenne et la médiane. Ce qu'on peut dire, c'est qu'encore une fois, en dessous de 100 000 euros, il n'y a pas de poursuite, au pénal, et que donc c'est aussi pour ça que l'essentiel des affaires sont à Paris, parce que vous avez notamment dans les départements des fraudes fiscales qui sont importantes, hein, des fraudes de boîtes de nuit, des fraudes d'entreprises assez importantes, de notables locaux, etc. Mais on n'arrive pas aux 100 000 euros de droit, en fait. Et donc, du coup, ça ne fait pas l'objet de... Bon, mais ça, encore une fois, il y a une logique. Il ne s'agit pas de poursuivre tout le monde et de... Mais il y a un vrai débat à avoir. Or, ce débat, il n'a pas lieu parce qu'on a juste ce chiffre-là qui permet à la commission des infractions fiscales d'avoir 1 000 dossiers par an et pas plus. Et puis, dernier point sur la socio-histoire... je crois que, enfin voilà, je suis peut-être un peu moins socio-historien que je l'ai été, mais je le reste quand même un peu. C'est-à-dire que la particularité, c'est que toute ma thèse, c'était de la socio-histoire, c'était 45 à 75. Donc c'était essentiellement sur archives, et finalement, c'est après seulement que. Et c'est vrai que là, les sujets que j'ai abordés ensuite, c'était beaucoup plus des sujets contemporains, de sociologie ou de sciences politiques au sens traditionnel du terme, et moins socio-histoire. Ceci dit, alors dans les bouquins que j'ai présentés, à chaque fois, je pense que c'est important, et pas seulement pour faire joli, d'avoir. quand même un chapitre historique qui permet de resituer l'administration, l'histoire de l'administration, l'histoire de sa composition. Et c'est vrai que ça ne change pas du jour au lendemain. Là, j'ai fait de l'évolution à grands traits, mais que tu as donné la clé, en fait. Et je suis complètement d'accord, là, de ce point de vue-là, on se rejoint complètement. C'est que c'est à travers les débats entre générations qu'on perçoit aussi ces changements-là. C'est quand on nous dit c'est la génération des anciens qui ne comprennent plus du tout les nouveaux qui arrivent, qui ne comprennent plus du tout comment ils travaillent, qui ne se reconnaissent plus du tout, qui ont l'impression de ne plus faire le même métier, etc. Qu'on se dit, ah bah tiens, là, il y a quelque chose qui se passe, en fait, qui s'est passé. Il y a une transformation. Et évidemment, elle n'est pas de but en blanc. C'est comme ça qu'on l'aperçoit et c'est comme ça que. On peut la voir. Voilà, et sur le dernier livre, l'impunité fiscale aussi, en fait, hein, on a essayé vraiment de. Là, pour le coup, c'est surtout Katia, parce qu'elle est la spécialiste d'histoire administrative, mais de faire un peu la socio-histoire de ce délit, en fait, pour comprendre pourquoi il a cette place. Parce que ce qu'on dit aussi dans le livre, hein, c'est qu'il ne s'agit pas de charger la barque sur les magistrats ou sur les contrôleurs d'impôts en disant que. Vraiment, ils sont en dessous de tout et qu'ils font pas ce qu'il faut, parce qu'en fait on sent bien que dans l'opinion, dans la conscience collective, il y a l'idée que la fraude fiscale c'est pas un délit comme les autres, c'est pas si grave que ça finalement, et que si les gens payent et que si l'argent rentre dans les caisses de l'État, ben, finalement on s'y retrouve, quoi. Et donc c'est vraiment un inconscient collectif partagé, et pour ça, enfin là pour le coup c'est une conviction vraiment épistémologique dure. Si on veut creuser cet inconscient collectif, il faut aller voir du côté de l'histoire et du côté de l'histoire longue de cette législation pour comprendre pourquoi on a tous ça dans la tête. Et pourquoi ça viendrait à l'idée de personne de quelqu'un à cambrioler une bijouterie, de dire bon bah finalement s'il rend les bijoux, c'est pas grave, on va pas le mettre en prison, hein, puisqu'il a rendu les bijoux, donc c'est bon, non? Et pourtant, en matière de fraude fiscale, ça a l'air de globalement pas poser de problème à l'ensemble de la société, en fait, de raisonner de cette façon-là.
D'autres interventions ? Bon, alors, moi, je peux en parler, déjà, j'en avais une. Concernant. Donc, dans l'ouvrage « L'impunité fiscale », il y a quelque chose d'intéressant vers la fin, c'est une série de préconisations qui sont faites, hein, pour ce qui n'est pas très courant non plus dans tous les bouquins de sciences sociales, mais ça va très bien au type de programme aussi éditorial, et c'est très bien. Donc, je voulais savoir comment ça s'était passé à la réflexion éditoriale par rapport à cette partie-là, qui est quand même intéressante, et en même temps, je croyais avec ça. Quel retour tu as pu faire ou pas, je ne sais pas, auprès des agents que tu as interviewés, est-ce qu'il y a eu une espèce de séminaire de l'institution après une discussion autour du livre avec eux pour que tu aies des retours, etc. Ou est-ce qu'on voit quelques présentations publiques et tu as eu des retours de quelque manière, voilà, c'est un peu, je voulais savoir.
Alors moi, comme je l'ai dit, je suis pas à l'aise avec ça et en même temps, je suis quand même content de l'avoir fait parce que. Voilà, je trouve qu'après tout, c'est quand même une question que. C'est quand même une question. Quand c'est un peu, j'ai envie de dire, c'est pas très facile à faire, c'est souvent pas dans nos habitudes, etc. Et en même temps, voilà, traiter sociologiquement des questions actuelles, contemporaines, avec cette charge politique, j'ai envie de dire, c'est le prix à payer, quoi. Et en même temps, c'est pas facile à faire parce qu'on voit bien que. On voit bien qu'il y a un côté très normatif, en fait. Je vais expliciter le fait de pourquoi on n'a pas envie de le faire et pourquoi on n'aime pas le faire. C'est que quand on fait de la sociologie, on aime bien décrire, on aime bien comprendre, et surtout ne pas être normatif et ne pas porter de jugement normatif, et comprendre les mécanismes sociaux, etc. Et j'en reste à cet objectif-là, c'est déjà beaucoup, en fait, de comprendre. Mais voilà, et donc faire des préconisations, c'est être normatif, forcément. Et donc c'est aller contre le raisonnement sociologique. Donc j'ai complètement conscience de cette contradiction. Voilà. Et en même temps, sur un sujet comme celui-là, à partir du moment où on fait aussi le pari de différencier les produits, j'ai envie de dire, hein, il y a des articles scientifiques, il y a des articles dans des revues scientifiques, puis voilà, il y a un ouvrage qui est à la fois à prétention scientifique, mais qui est aussi qui a vocation à s'ouvrir à un public plus large. Voilà, je me suis laissé, disons, convaincre par ma co-auteure qui est Katia. Qui est juriste et donc elle qui n'a pas peur du normatif, que ça avait du sens de le faire, en fait, et surtout de le faire, alors pas de le faire de façon complètement normative, c'est là où on a trouvé un terrain d'entente, mais de le faire à partir des expériences étrangères. et de voir
comparatif.
Comment font les étrangers, comment font les autres, et pourquoi finalement on ne pourrait pas importer de façon raisonnée. Il ne s'agit pas de dire de copier à l'identique, mais des pratiques. Voilà. Et c'est pour ça que, voilà, par exemple, la commission des infractions fiscales, aucun autre pays étranger n'a une inscription comme ça, donc on peut dire bah, peut-être qu'on pourrait s'en passer, en fait, puisque tous les autres pays luttent contre la fraude fiscale et ils n'ont pas besoin de commission des infractions fiscales, donc c'est qu'on doit pouvoir s'en passer. Enfin, voilà, je prends des exemples très simples. Autre exemple, c'est sur la police fiscale, voilà, hein, de multiplier ces... voilà, sur l'autre chose qu'on a fait, c'est sur la question de l'ouverture de l'éventail des délits, enfin des peines en fait et des sanctions. Là aussi, je vais poser une question qu'on m'a pas posée, mais à laquelle je vais tout de suite répondre. C'est bien gentil tout ça, mais on va quand même pas mettre tout le monde. Enfin, les prisons sont surpeuplées et donc, en gros, ce que vous voulez, c'est si on rajoute en plus les délinquants fiscaux, ben ça va pas forcément faire avancer le truc et c'est pas forcément la solution. La prison, c'est pas forcément la solution et ça se discute, etc. Et donc, c'est aussi pour parer à cet éventuel reproche qu'on a dit, mais en fait, il y a des moyens de... Pour nous, une grande partie de l'impunité fiscale s'explique aussi par le fait que le discours des magistrats, c'est de dire, écoutez, de toute façon, c'est un délit, il y en a plein d'autres, plus graves, etc. La prison, c'est quand même un peu lourd, ces gens-là, c'est quand même pas des dangers pour la société, etc. etc. Et en fait, voilà, c'est de dire, bon, la prison, c'est peut-être pas la meilleure solution, mais on peut quand même se creuser la tête pour essayer de voir s'il n'y a pas d'autres formes de sanctions qui pourraient avoir du sens, un sens politique, un sens sociologique, et qui ne soient pas forcément la prison. Donc là, on a fait des expérimentations très intéressantes, notamment de soumettre nos idées aux magistrats avec qui on discutait, et notamment une qui est, par exemple, des travaux d'intérêt général. Et ça, c'est très marrant de voir dans les entretiens, quand on dit à un magistrat spécialisé dans la fraude fiscale, mais... et qui nous explique que, ben voilà, de toute façon, la prison ferme, c'est quand c'est un primo-délinquant, ça se fait pas, en fait, parce que la prison ferme, on la prononce que quand il y a récidive, que quand il y a un dossier lourd, que quand il y a intentionnalité de frauder, etc. Et on dit, mais pourquoi vous ne mettez pas des travaux d'intérêt général ? Et donc là, rien que la réaction des magistrats, en fait, de dire, mais on a l'impression de tout d'un coup de s'être mis tout nu sur la table et il nous dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, quoi ? Parce que c'est pas du tout fait pour ça, c'est pas du tout. C'est pour des jeunes en réinsertion, là c'est pas du tout le cas en fait. Voilà. Typiquement, voilà, ce qu'on a essayé de dire, c'est ouvrons l'éventail des peines et des sanctions et faisons preuve d'imagination. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être prononcé tout de suite par les magistrats. Il y a d'autres choses qui pourraient faire l'objet de changements législatifs, mais par exemple aux États-Unis, il y a des confiscations de passeports. Quand on confisque le permis de conduire, on peut imaginer que on confisque le passeport, que. On peut imaginer que il y a des peines de voilà de dégradation, enfin de pour le coup de dégradation symbolique, de perte des droits civiques, de voilà que en fait en tout cas voilà ça mérite d'être discuté, d'être réfléchi et que sortir de l'alternative prison pour tous ou rien du tout en fait il y a d'autres choses, il y a aussi voilà, la saisie des biens. Enfin voilà, on détaille tout ça dans le livre. Et puis la question des intermédiaires, qui pour nous est quand même très problématique, qui est que la France a cette particularité. Donc là aussi, on s'est inspiré du cas britannique, c'est que tout à l'heure, j'ai pas été au bout de l'exemple des pharmacies, mais les officines de pharmacie, il y a une grosse opération d'officines de pharmacie qui utilisait des logiciels de double comptabilité. Donc il y a eu quand même 120 pharmacies qui ont été poursuivies pour fraude fiscale devant les tribunaux. Ça s'est pas trop su, mais pour la plupart, il y a eu des non-lieux et des peines quasiment symboliques parce qu'elles avaient toutes payé, en fait, elles avaient toutes payé les pénalités. Et donc les magistrats qu'on a interrogés, on leur dit « Mais pourquoi vous avez classé sans suite ?» Là, pour le coup, l'intentionnalité de la fraude, elle est quand même assez avérée. Il y a un logiciel de double comptabilité. On est au-dessus de 100 000 euros. On peut pas dire « C'est une erreur, j'ai mal vu, il y a un côté systématique, etc. » Et ce qu'ils nous disent, c'est « Mais non, mais en fait, bon, voilà, enfin, toujours la même chose. » C'est-à-dire, mais en fait, ils ont quand même remboursé l'essentiel de ce qu'ils devaient. Et puis quand même, il faut bien qu'il y ait des pharmacies qui continuent à être pharmacies. Et puis, mais ce qui est très frappant, donc ça corrobore ce que j'ai dit précédemment, mais ce qui est encore plus frappant, c'est que le constructeur du logiciel de pharmacie, en fait, personne ne s'est intéressé à lui, parce que l'administration fiscale, elle a ciblé les pharmacies pour récupérer l'argent, encaisser le maximum de pénalités. Ensuite, elle a transmis au juge qui a classé sans suite ou a fait des peines de prison avec sursis dans les cas les plus lourds. Mais en fait, l'entreprise qui a produit le logiciel de comptabilité, en fait, comme il n'a pas été transmis à l'institution judiciaire, personne n'est capable de dire ce qui lui est arrivé et s'il a été poursuivi. Et ça, pour nous, c'est vraiment typique d'une, voilà, d'un encastrement de deux administrations qui n'arrivent pas à gérer un délit comme un délit à part entière, comme elle le fait pour d'autres types de délinquance. Voilà, donc pour terminer sur la série des préconisations. Et puis, c'est toujours intéressant, en fait. Voilà, je pense que les préconisations, si on les ancre dans des exemples étrangers, surtout dans cette matière-là, parce que, en fait, ce qui nous a frappé aussi, c'est que tous les magistrats qu'on a rencontrés, tous les inspecteurs des impôts qu'on a rencontrés, ont finalement aucune connaissance de ce qui se fait à l'étranger, en fait. Et ça, c'est particulier à ce domaine-là. C'est-à-dire qu'en matière d'immigration, quand on fait des entretiens avec des agents, tout le monde est capable de vous dire le permis, le système à points du Canada, les États-Unis où ils ont plein de sans-papiers où ils s'en occupent pas, etc., etc. Là, en fait, il y a ah bon, vous faites une étude là-dessus et vous faites en plus des comparaisons avec les étrangers, bah, dites-nous parce que franchement, on n'a aucune idée de ce qui se fait dans aucun autre pays en fait, si ce n'est des par où dire quoi. Voilà.
Merci.
Merci beaucoup de votre attention.